Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série littéraire qui sera diffusée tout cet été sur RFI. Une version spéciale de Littérature sans frontières avec des émissions inédites en juillet et quelques rediffusions en août, toutes sous le thème « Un pays, un auteur ». Ainsi, pendant 2 mois, 15 écrivains, essentiellement de langue française, nous ferons voyager dans les lieux où ils sont nés et où ils ont vécu, du Vietnam à l'Algérie, en passant par Israël, le Japon, mais aussi l'Iran, le Québec, le Cameroun et la Turquie, entre autres. Et pour inaugurer cette saison estivale, notre première destination aujourd'hui, le Tchad.
Un pays.
Un auteur.
En ce temps-là, au cœur de l'Afrique, un blanc et un noir ne se parlaient généralement qu'avec les mains ou les onomatopées. L'un des tout premiers explorateurs européens à arriver sur la rive du plus grand lac du Sahel s'émerveilla de la beauté du paysage qu'il désignait du doigt à un autochtone. Embrassant tout l'espace de ses longs bras, ce dernier lui répondit « Tchad », ce qui signifie en langue kanouri « grande étendue d'eau ». L'occidental nota sur son calepin le nom qui allait d'abord désigner le seul bassin aquatique avant de s'étendre bien plus tard à tout le pays. Le Tchad, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses frontières taillées au sabre, est une pure construction française. En effet, avant la conquête européenne amorcée à la fin du XIXe siècle, cet immense territoire, désormais sacré berceau de l'humanité, hébergeait essentiellement les royaumes du Kanem, Bornou, du Baguirmi et du Wadaï. Érigé dans le sultanat suite à la conversion précoce à l'islam de leurs élites, ces 3 États ont tous prospéré durant des siècles grâce à la traite négrière effrénée au profit du Maghreb et du Moyen-Orient. Les principautés animistes qui subsistaient à leurs frontières méridionales leur servaient de greniers à esclaves. Elles étaient ponctionnées à l'envi afin de peupler de concubines et d'eunuques les harems du monde arabo-musulman. Si l'Atlantique est l'un des plus grands cimetières marins à cause du commerce triangulaire, le Sahara est sans doute, sans conteste, l'un des plus vastes ossuaires au-dessus du niveau de la mer. Et malgré leur redoutable efficacité à effacer les traces, les sables de cet immense désert s'avèrent incapables de recouvrir la mémoire de ce génocide qui les dépasse de tous côtés par son ampleur, son passif, sa durée et surtout son actualité.
Merci Nétonan Noël Djékéri d'avoir lu cet extrait de votre nouveau roman intitulé « Au petit bonheur, la brousse » paru aux éditions suisses Elis Hélas et qui nous plonge au cœur de votre pays natal, le Tchad. Et je suis d'autant plus ravie de vous recevoir que votre carrière d'auteur a commencé, je crois, avec un premier texte court qui a été remarqué et primé dans un concours de nouvelles organisé par Radio France Internationale et à ce titre édité dans un recueil. Depuis, vous avez publié 4 romans avec celui-ci et vous avez reçu le Grand Prix littéraire national du Tchad pour l'ensemble de votre œuvre. Que représente aujourd'hui le Tchad pour vous qui, depuis 1982, vivez et travaillez en Suisse ?
Alors, le Tchad représente toute une grande partie de moi, c'est-à-dire la meilleure partie de ma personne qui est mon enfance. Et je suis de ceux qui croient que l'enfance, c'est là où tout se noue. L'adulte qui sommeille en nous, en fait, se forge durant l'enfance. Et je crois que chaque chose que je fais, chaque jour que Dieu fait, eh bien, ça passe quand même par le moule de toute cette éducation tchadienne que j'ai reçue de mes parents, de mes voisins, des voisins de mes parents, etc.
Et vous y retournez de temps en temps ?
J'essaie d'y retourner tous les 18 mois. La dernière fois, c'était en 2017. Je pense pouvoir y retourner d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
Ce pays natal, le Tchad, vous le racontez aujourd'hui à travers les yeux d'un petit garçon, Ben Diman, dit Ben, qui naît à Genève dans les années 90 environ, de parents tchadiens, car le père diplomate a été muté en Suisse. Il connaît une enfance idyllique, mais un jour, alors qu'il est encore petit, il n'a même pas 10 ans, la famille est rappelée d'urgence au Tchad. Et c'est donc par le récit à hauteur d'enfant que le lecteur découvre ce pays un peu comme un étranger, finalement. Pourquoi avez-vous choisi cette narration très singulière qui peut étonner, puisque vous, vous êtes né au Tchad, à Moundou exactement? Est-ce que c'est lié à une histoire personnelle?
L'idée de ce livre m'est venue à un moment très très particulier de ma vie. J'ai deux enfants, deux garçons. Et l'aîné, quand il avait l'âge de 8 ans, manifestait un désir de Tchad, mais dévorant. Il voulait absolument que je l'amène voir sa grand-maman et puis ses cousins, ses oncles au Tchad.
Parce qu'il était né en Suisse, lui aussi?
Parce qu'il était né en Suisse.
Comme Ben, donc.
Et à ce moment-là, la situation au Tchad était très, très préoccupante. Bon, vous me diriez à quel moment est-ce que la situation au Tchad n'est pas préoccupante. Mais j'avais la responsabilité d'amener ce fils qui était unique à l'époque au Tchad et j'avais tendance à procrastiner. Et puis là-dessus, j'ai un de mes cousins qui est médecin, qui était de passage à Genève pour une conférence de l'OMS, qui se prénomme aussi Noël d'ailleurs. Il y a beaucoup de Noël dans la famille. Et donc, qui lance comme ça sous forme de boutade à mon fils, « Écoute, tu viens me voir quand ?» Et le fils lui répond du tac au tac, « Ben, quand tu veux. » Et alors, mon cousin se tourne vers moi et me dit « Bon, mais il faut me l'envoyer pour les vacances de décembre. » Et donc, étant donné que dans la famille africaine, les cousins et les frères ont les mêmes prérogatives sur l'enfant que le père, je ne pouvais pas me dérober, d'autant que mon épouse poussait dans le sens du voyage. Et donc, c'est sur ces entrefaites-là que j'ai amené mon fils, qui était unique à l'époque, jusqu'à Paris, je l'ai mis dans un avion, je l'ai confié à une hôtesse de l'air qui l'a amené dans un avion. Et quand l'avion a décollé, moi j'ai dû reprendre le TGV pour Genève. Et c'est dans le train qui me ramenait à Genève que j'ai été saisi d'une espèce d'angoisse, mais quelque chose d'épouvantable. Je me suis dit, mais voilà, un enfant, c'est le mien. Et je l'ai confié à une hôtesse et je l'envoie dans un pays qu'il ne connaît pas du tout. Hein, alors que j'aurais dû, en tant que père, l'accompagner pour lui parler de ce pays-là, pour lui présenter les parents, les amis sur place, pour lui présenter, pour lui parler même de l'histoire du pays. Et c'est dans ce train que j'ai eu envie de raconter cette histoire qui met en jeu mon pays d'adoption, la Suisse, et mon pays de naissance, le Tchad.
C'est donc ainsi que naît le personnage du petit Ben. Et c'est vrai que c'est un peu le Candide de Voltaire, d'une certaine façon, ce jeune garçon qui arrive à la fois en terre inconnue, mais une terre qui est aussi celle de ses parents, celle de ses ancêtres. Sauf que avant de pouvoir découvrir à son rythme la région, la culture, les langues, dès qu'il descend de l'avion, ses parents sont arrêtés pour raison d'État. Et le petit Ben se retrouve confié à son oncle avec deux objectifs, retrouver sa famille bien sûr, mais aussi s'adapter parce qu'il vit un vrai choc des cultures, à commencer par sa scolarité où pour la première fois il est confronté à une forme de corruption puisque l'instituteur n'enseigne qu'aux enfants qui donnent de l'argent le matin dans la petite casquette qu'il fait circuler. Et cette corruption, on va la retrouver à plusieurs reprises et à des niveaux plus élevés de la société. C'est un fléau qui, hélas, est répandu dans de nombreux pays et sur de nombreux continents. Donc le Tchad n'y échappe pas. Mais est-ce que ça veut dire aussi, n'étonnons Noël Ndjekeri, que pour vous, c'était impossible de faire le portrait de ce pays sans mentionner cette avidité pour l'argent qui provoque d'immenses injustices?
Je crois que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien dès l'instant où on met le pied là-bas. Donc, c'était impossible de passer sous silence. Et cet aspect corrompu de l'administration. Et c'est quelque chose que moi, j'ai déjà vécu quand j'étais à l'école primaire au Tchad. Hein. On avait des instituteurs qui nous demandaient de l'argent, hein, simplement pour arrondir leur fin du mois. Encore qu'à l'époque, les fonctionnaires étaient régulièrement payés, ce qui n'est plus le cas depuis quelques années. Hein, les gens sont payés à chaque passage de la comète. Et de la comète d'aller. Et puis, ça n'encourage pas du tout la probité chez des gens qui ont une petite parcelle du pouvoir, et même quand ils ont leurs administrés sont des enfants. Hein. Et c'est cette forme de corruption-là qui m'est le plus insupportable, parce que ce pays a besoin d'une jeunesse éduquée, qui feront des adultes éduqués pour assurer son développement. Et malheureusement, l'éducation nationale et même l'enseignement supérieur restent les parents pauvres de l'administration aujourd'hui. Ce qui importe pour les autorités en place, c'est d'abord l'armée, la sécurité. Par certains côtés, on peut le comprendre. Mais comme je suis un romancier, un artiste, et donc mon rôle, c'est de poser des questions. Et l'une des questions que je me pose et que je pose régulièrement quand on m'en offre l'occasion, c'est que pendant une décennie, de 2003 à 2013, pendant où il y avait l'euphorie pétrolière, il y a eu des milliards en pétrodollars, dans toutes les monnaies que vous voulez, qui sont entrés dans ce pays. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait à part d'immenses éléphants blancs, n'est-ce pas, des constructions comme la maison de la radio-télévision, 23 étages, qui rouillent sur pied et qui n'habitent que des araignées. Qu'est-ce qu'on a fait de toute cette manne qui est tombée sur ce pays? Et c'est des questions qu'on est en droit de se poser.
Autre nouveauté pour Ben, autre spécificité tchadienne d'une certaine façon, c'est la découverte de l'armée rebelle pour laquelle il va travailler un temps comme recruteur, toujours dans l'espoir de trouver un moyen de libérer ses parents de prison. Alors c'est un milieu que vous nous faites découvrir avec ces personnages très emblématiques, ces garçons à peine adultes qui ont déjà des surnoms de guerriers, qui ont un protocole très particulier. Est-ce que vous avez inventé tout ça de toutes pièces, ou vous avez vous-même rencontré, en étonnant Noël Djekeri, des membres de la guérilla tchadienne?
J'ai non seulement rencontré des membres de la guérilla tchadienne, mais j'ai aussi bénéficié d'une documentation qui m'a été fournie par des amis qui travaillent dans les milieux des organisations internationales en Suisse, à Genève. Et j'ai fait des recoupements avec les témoignages que j'ai récoltés auprès des gens qui ont été dans la rébellion tchadienne, dans la rébellion Kodo du sud du Tchad des années 2000 à la fin des années du siècle dernier. Et donc, c'est un mélange de tout ça qui forge un peu le travail de Bendiman comme recruteur et informateur de la rébellion.
Ouais. Finalement, cette expérience va tourner mal parce que les soldats ne lui sont d'aucune utilité. D'une part, eux aussi sont très avides d'argent. Ils pensent aussi à leur cause personnelle. Et puis Ben ne va pas supporter être peut-être le complice de la mort d'une des jeunes recrues. Et puis, le problème surtout, c'est que son oncle, qui s'occupait de lui, à son tour, va être arrêté. Donc Ben doit absolument trouver d'autres moyens. Là, il a grandi parce qu'effectivement, les mois et les années ont passé, il est en âge de s'assumer seul et il devient exploitant de bétail parce qu'il croit en effet pouvoir gagner de l'argent. Il faut dire que c'est un garçon qui a une excellente mémoire, qui est doué de la parole et qui peut facilement manipuler les gens avec qui il échange. Mais il faut reconnaître aussi que s'il devient exploitant de bétail, c'est parce que il est vrai que le Tchad est un grand pays d'élevage et que c'est un grand exportateur vers les pays voisins, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, tout à fait. Le Tchad approvisionne, je dirais, toute l'Afrique centrale en viande fraîche. Et donc, il y a énormément de bétail sur pied, Hein, c'est un pays d'élevage, le Tchad.
Et vous, vous y connaissez un peu en élevage ?
Je ne suis pas d'une famille d'éleveurs. Hein. Dans ma famille, on est plutôt paysans, agriculteurs. Mais je connais des éleveurs. Quand je rentre au Tchad, j'ai des amis qui sont dans l'élevage ou qui travaillent dans l'accompagnement des éleveurs. Et donc, ce sont eux qui m'ont fourni un peu la matière à la documentation pour faire ce travail-là, pour cet écrit, ce texte.
Mini panto itamia sitoa, mini panto kadmos no alia beadita, si diog, si mandug, si basag, ido wasi walia. Jirai walia, jirai walia, jirai walia, tudubula, indok kidile, tudubula. Ndok majua, jirai walia, nendok kijile. Jirai walia, nendok majua. Take naga, chita horndal tuo, jori su gregreo. Jindami nao, jori su gregreo. Take naga, chita horndal tuo, jori su gregreo. Jindami nao, jori su gregreo.
Littérature sans frontières. Un pays, un auteur.
Et nous sommes donc au Tchad sur RFI aujourd'hui avec l'écrivain étonnant Noël Djekeri, auteur du roman « Au petit bonheur, la brousse » aux éditions Elis Hélas. L'histoire, on l'a dit, de Ben, né en Suisse, débarqué du jour au lendemain au Tchad, pays de ses parents, mais lesquels sont arrêtés par des militaires sans véritable motif. Et dès lors, le petit garçon va passer ses prochaines années à tout tenter pour retrouver sa famille. Un roman d'apprentissage qui est donc à la fois la découverte d'un pays au début totalement étranger et le combat d'un garçon contre la raison d'État. Et c'est un récit qui oscille en permanence entre le bonheur et le malheur, entre le rire et les larmes, et pourtant qui ne tire jamais vers le misérabilisme. Au contraire, on sent, étonnant Noël Djekeri, que vous avez voulu mettre beaucoup d'humour dans ce panorama parfois désespérant.
Oui, absolument. Et je pense que mon travail d'écriture se situe dans ce que j'appelle, j'emprunte le terme à un de nos grands auteurs africains qui s'appelle Henri Lopez, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le pleurer-rire ». Et le pleurer-rire, c'est une expression qu'on retrouve aussi dans ma langue Sarangambay du sud du Tchad. Et c'est entre ces deux pôles-là, le rire et le pleurer, que j'essaie, moi, de faire émerger un peu d'humour et de poésie à travers mon texte et à travers mon travail d'écriture. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de faire rire quand même pour faire passer des réalités qui sont, vous me l'accorderez, assez dramatiques, assez tragiques par moments. Et quelqu'un a dit l'humour est le désespoir,
la politesse du désespoir.
La politesse du désespoir, merci. Voilà. Je me reconnais totalement dans cette expression. Oui.
Donc Ben, fidèle à sa détermination, utilise tous les moyens à sa disposition pour retrouver ses parents, dont il n'a toujours aucune nouvelle. Il ne sait même pas dans quelle prison ils sont enfermés. D'ailleurs, en dépit des sommes exorbitantes payées aux gardiens ou à toutes les personnes susceptibles de lui donner des renseignements. Mais en revanche, à l'occasion du 25e anniversaire du président du pays, que vous appelez Didi Salman Dada, surnommé l'autre là, son oncle est libéré. Et là, Ben découvre le sort funeste des prisonniers qui ont été torturés. Autant dire que les droits de l'homme paraissent ici être réduits à leur plus sommaire expression. Est-ce parce que aussi vous vivez en Suisse que vous pouvez, étonnant Noël Djekeri, écrire sans danger sur le fait que les Tchadiens peuvent être victimes de cette raison d'État ?
Certainement, mais vous savez, le livre n'a pas au Tchad l'importance qu'on lui donne ici en Occident.
Vous voulez dire l'objet-livre ?
L'objet-livre. Déjà, il est accessible à très très peu de personnes. Il y a très peu de gens qui ont la chance de savoir lire au Tchad. Et parmi ceux qui savent lire, il y en a très peu qui s'intéressent à lire. Je vous dis, moi, j'ai étudié en même temps que des gens qui sont aujourd'hui aux affaires et qui sont en train gentiment de tomber dans l'illettrisme parce que, hors de leur domaine de spécialisation, hors de leur domaine d'activité, ils ne lisent pas. Et même les publications qui concernent leur spécialité, eh bien, ils ne les consultent pas. Donc, le livre touche très, très peu de personnes. Ceux qui en ont les moyens, ils ont d'autres chats à fouetter. Et puis, ceux qui aimeraient lire n'ont pas les moyens d'accéder au livre. Déjà, et de deux, ça coûte affreusement cher, le livre, quand les livres qu'on publie ici en Europe. Donc, c'est pour vous dire que, même à supposer que je vive sur place, je pense que je ne pourrais pas être inquiété parce que ça affecte si peu de gens, le livre, que ça n'inquiéterait pas les gens qui sont au pouvoir. Du moins, c'est l'illusion dans laquelle je vis, mais c'est clair que d'être hors du Tchad, ça m'autorise un peu toutes les audaces.
Hein. Ce regard critique, en tout cas.
Ce regard critique, en tout cas. Et du temps où je vivais là-bas, j'écrivais déjà des choses assez critiques, hein, mais les régimes ne sont pas les mêmes.
Et en même temps, ici, par exemple, vous ne nommez jamais le président actuel, Idriss Déby.
Non, je ne le nomme pas, mais tout simplement parce que c'est un roman qui se situe hors du temps. Il y a des événements que j'évoque là-dedans qui se sont passés sous Tombalbaï, le premier président du Tchad, 1960-1975. Il y en a qui se sont passés sous le règne de Habré, il y en a qui se sont passés sous Goukouni, et il y en a qui se sont passés sous le régime actuel.
Tout à l'heure, vous disiez, Netanon Noël Djekeri, que en tant qu'écrivain, romancier, vous aimiez poser des questions. Ici, il se trouve en effet que vous posez la question du blanchiment de l'argent via la Suisse. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les parents de Ben ont été arrêtés, parce qu'ils pouvaient servir de transfert. Et vous écrivez cette chose terrible. Cette machine à blanchir des fonds détournés contribue aussi à tuer un enfant toutes les 6 secondes. C'est vrai ?
Oui, tout à fait. C'est des chiffres publiés par le Programme alimentaire mondial. Donc, c'est une source relativement sûre. C'est une source relativement sûre. C'est cité à foison. C'est cité notamment par Jean Ziegler, qui est une autorité. Il a été commissaire du secrétaire général des Nations Unies pour l'alimentation. Donc, il sait de quoi il parle. C'est clair que tout cet argent qui ressort de l'Afrique, hein, qui est aspiré d'Afrique, c'est autant d'argent qui manque pour l'alimentation, pour l'éducation, pour la santé des gens sur place. Mais je pense qu'avant de dénoncer, de crier sur la responsabilité des autres, il faudrait peut-être réfléchir, interpeller, questionner notre propre responsabilité en tant qu'Africain, en tant que personne qui gère nos États, hein, dans cette machine à blanchir de l'argent. Hein. Les banquiers, évidemment, c'est des gens qui n'ont pas toujours des scrupules. Et on sait depuis, je ne sais plus si c'est Rousseau ou Voltaire qui disait, si un banquier suisse saute du deuxième étage d'un immeuble, sauter après lui, il y a de l'argent à gagner.
Non.
Vous voyez ? Donc, le banquier, c'est celui qui a le métier de faire de l'argent. C'est quelqu'un qui étouffe ses scrupules. Et il faudrait que nos institutions, les institutions que se donnent nos États, puissent se renforcer de manière à réduire, parce que c'est pas possible d'arriver à éradiquer complètement cette machine à blanchir de l'argent détourné, à réduire à sa plus simple expression cette machine-là.
Votre roman Au Petit Bonheur Labrousse se termine sur un mystère, celui du sort de Ben, qui néanmoins a enfin réussi à connaître la vérité sur ses parents, mais il disparaît et voici ce que vous écrivez. D'ailleurs, est-il humainement possible de s'inventer un quelconque avenir dans un présent que fumée, cendres et poussière teignent en permanence de la pâleur d'un linceul ? En tout état de cause, il n'y a que 2 choses dont on soit à peu près sûr dans cette Afrique-là. La première, c'est que la lumière renaît toujours des ténèbres. La seconde, c'est qu'une communauté qui ne propose ni de pépinière de rêve à ses enfants, ni d'oasis de repos à ses morts, est une société en sursis. Et le reste dans tout ça ? Tout le reste s'avère si extrême dans la douleur comme dans la joie que, sous peine d'y perdre la raison, il faut sans cesse le repeindre aux couleurs des mirages, si courants avec l'avancée des déserts, simple exigence de survie. C'est un constat un peu désolant.
Déprimant.
Désolant, en effet, que vous faites en général et du Tchad en particulier.
Oui, c'est un constat, je vous l'accorde, assez désolant, mais c'est un constat qui est nécessaire. Parce qu'il faut nommer ce qui ne va pas pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et comme je vous le disais tantôt, le rôle de l'artiste et de l'écrivain, c'est pas de proposer des solutions. Il y a déjà des politiciens pour ça. Nous, notre rôle, c'est de poser des questions. Et je pense que cette question-là se pose. Parce que si on maintient des peuples entiers dans un système qui produit du mensonge à longueur de journée. Bon, c'est vrai que l'exemple aujourd'hui nous vient des États-Unis. On nous parle de fake news par-ci, de fake news par-là, pour contester, y compris la rotondité de la Terre. Et donc, si on maintient des peuples entiers dans un système de mensonges, comme c'est le cas dans la plupart des pays subsahariens, eh bien, ces gens sont obligés de s'imaginer un monde mais totalement factice pour survivre. Et je le dis, je l'ai dit l'autre jour à un collègue avec qui je discutais sur la question des migrants, qui accusait les migrants qui débarquaient en Italie, en Suisse, de mentir, comme ils respiraient, etc. J'ai dit, mais ce ne sont pas des gens qui mentent. Ce sont des gens qui ont grandi dans un système qui promeut le mensonge. Et donc, ces gens-là, pour survivre, eh bien, ils essayent de poétiser la vie. Ils poétisent la vie. Ce ne sont pas des mensonges. C'est des gens qui s'imaginent une vie différente, une vie des aventures. Ils s'accrochent à leurs rêves ou à leurs cauchemars, appelons ça comme on veut. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas fonctionner comme on fonctionne dans un système où on a accès à l'information, où on a accès à la liberté d'expression, où on a accès à la liberté tout court. Donc, c'est cela la vérité, c'est que il faudrait qu'on nomme nos maux et quitte à ceux qui en ont la charge et les pouvoirs de trouver les remèdes à ce mot-là. C'est ce que j'essaye de faire très modestement à travers ce livre notamment.
Merci beaucoup pour ce voyage en Tchad. N'étonnant Noël Djekeri, et je rappelle le titre de ce nouveau roman qui s'intitule « Au petit bonheur la brousse » et qui a été publié aux éditions Ellis Hellas.
Merci Catherine de m'avoir fait l'honneur d'être le premier invité de cette série d'émissions. Je vous en suis très très reconnaissant.
Avec plaisir.
Tam Chifna, docteur chômeur, au Gary Messout millionnaire. La vie n'est pas réservée qu'aux diplômés. Un peu de respect et de tolérance pour ceux qui n'ont pas eu la même réussite scolaire que vous. Leur bonheur est simplement ailleurs.
One last, one Benin, Madame Raymond du Parti Kogi.
Barnabas, agriculteur moderne à Canon.
One last, one Benin, Madame Raymond du Parti Kogi.
À tous les amis de ça.
One last, one Benin. Madame
Raymond
du Parti
Kogi.
Madame
Raymond
du Parti
Kogi. Madame Raymond
du Parti
Kogi.
Madame
Raymond du Parti Kogi.